Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les pierres sauvages de Fernand Pouillon » est un roman historique et architectural publié en 1964, écrit pendant l'emprisonnement de l'auteur. Le livre prend la forme d'un journal fictif attribué à un moine maître d'œuvre au XIIe siècle, chargé de la construction de l'abbaye cistercienne du Toronnais en Provence. À travers cette fiction rigoureusement documentée, Pouillon décrit les gestes du chantier, le choix des pierres, l'organisation du travail, les tensions humaines et les exigences spirituelles qui entourent l'édification d'un monument. L'ouvrage ne se limite pas à une reconstitution médiévale, il interroge la relation entre matière, forme, effort et idéal, tout en faisant apparaître en creux la situation personnelle de l'auteur et sa réflexion sur l'architecture comme art humain, durable et accessible. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la construction du Toronnais comme laboratoire de l'architecture cistercienne. Le cœur du livre est la mise en scène de la construction de l'abbaye du Toronnais, non comme décor, mais comme processus concret. Pouillon s'attache aux étapes du chantier, depuis le repérage du site jusqu'à l'extraction et à la mise en œuvre de la pierre, en montrant que l'architecture médiévale relève d'une suite de décisions techniques, matérielles et collectives. Cette approche donne au roman une valeur documentaire forte, car elle fait ressortir les contraintes réelles d'un chantier du XIIe siècle, transport des matériaux, adaptation au terrain, coordination des ouvriers, organisation des tâches et gestion des imprévus. Le livre montre aussi que la forme de l'abbaye n'est pas indépendante de ses conditions de production. La sobriété cistercienne, les volumes purs et la place donnée à la lumière découlent d'un choix architectural cohérent avec une discipline de construction. Ainsi, le Toronnais devient un cas exemplaire pour comprendre comment une œuvre bâtie naît d'une intelligence collective et d'une relation exigeante au lieu. Deuxièmement, la pierre sauvage comme symbole de matière, de résistance et de beauté. Le titre renvoie à l'une des idées les plus importantes du livre, la valeur de la pierre brute, locale, difficile à tailler, mais adaptée à l'édifice qu'elle doit former. Pouillon ne traite pas ce matériau comme un simple support technique. Il en fait un véritable principe esthétique et moral. La pierre sauvage représente à la fois la résistance du monde, l'obstination du réel et la possibilité de transformer une matière humble en forme durable. Ce choix permet aussi de réfléchir au rapport entre nature et culture. Le chantier n'impose pas une géométrie abstraite au paysage. Il s'y inscrit en composant avec les ressources disponibles. Le récit insiste sur la dureté du travail, la fatigue et les erreurs, mais il montre que la beauté du monument naît précisément de cette contrainte. La pierre, elle n'est pas masquée par l'architecture, elle en devient la substance visible. Cette dimension donne au roman une portée plus large qu'une simple évocation historique, car elle propose une éthique de la construction fondée sur le respect des matériaux et sur la fidélité à leur nature. Troisièmement, un journal fictif pour unir récit médiéval et réflexion intime, le choix du journal de bord fictif est essentiel à la singularité du livre. En attribuant la narration à un moine constructeur, Pouillon adopte un point de vue interne qui permet de suivre le chantier jour après jour, avec ses hésitations, ses décisions et ses tensions. Cette forme donne l'impression d'une chronique directe, mais elle reste une fiction littéraire soigneusement construite. Elle autorise une double lecture d'un côté, le lecteur découvre la vie d'une communauté religieuse et d'un chantier médiéval. De l'autre, il perçoit la projection des préoccupations de l'auteur, architecte lui-même, sur ce personnage de maître d'œuvre. Le journal devient alors un instrument de réflexion sur la création, parce qu'il associe l'immédiateté du vécu à une méditation sur le sens du travail bien fait. La forme intime renforce aussi l'intensité des passages consacrés à la souffrance, au doute ou au découragement, puisque le récit ne se contente pas d'exposer des faits, il rend sensible l'engagement intérieur de celui qui construit. C'est ce dispositif narratif qui donne au roman son équilibre entre exactitude technique et dimension spirituelle. Quatrièmement, une méditation sur le travail collectif, la discipline et la fragilité humaine, les pierres sauvages ne célèbrent pas seulement un monument. Ils s'intéressent aux hommes qui le rendent possible. Le chantier y apparaît comme un espace de coopération où moines, converses, artisans et supérieurs doivent composer avec des hiérarchies, des conflits et des limites très concrètes. Pouillon met en avant les responsabilités, les frustrations, les accidents et les pertes, ce qui évite toute idéalisation du Moyen-Âge. Le travail collectif y est présenté comme une épreuve morale. Autant que technique, il faut répartir les tâches, maintenir la discipline, soutenir les blessés, accepter les retards et poursuivre malgré la fatigue. Cette attention aux relations humaines donne au livre une profondeur particulière, car la construction devient un révélateur de caractère. Certains cherchent à imposer leur autorité, d'autres doutent, d'autres encore se dévouent, sans espoir de reconnaissance. Le roman montre ainsi que toute œuvre commune dépend de la capacité des individus à dépasser leurs intérêts immédiats En ce sens, le chantier du Toronet fonctionne comme une miniature de la société, où l'ordre architectural reflète un ordre humain toujours fragile et toujours à construire. En dernier lieu, une œuvre de l'exil intérieur et de l'architecture humaniste, l'importance du livre tient aussi à son contexte d'écriture. Pouillon l'a rédigé pendant sa détention et cette situation éclaire la tonalité de l'ouvrage sans en réduire la portée. Le parallèle entre l'enfermement de l'auteur et la vie retirée du moine constructeur donne au roman une densité supplémentaire. La construction de l'abbaye devient une forme de liberté intérieure, une réponse à la contrainte par l'intelligence, la patience et le geste juste. Ce lien entre situation personnelle et fiction renforce la dimension humaniste du texte, car l'architecture y est pensée comme une activité qui ordonne le monde sans le nier, qui respecte les hommes autant que la matière et qui vise une beauté accessible plutôt qu'un prestige réservé à une élite. C'est ce qui distingue fortement le livre d'autres romans historiques centrés sur des monuments. Ici, l'édifice naît et pas seulement un objet de contemplation, mais l'expression d'une pensée sur la dignité du travail, la durée et l'usage social de l'architecture. Le roman parle ainsi autant de construction que de responsabilité, autant de pierre que de liberté. En conclusion, Les pierres sauvages méritent d'être lues par les amateurs d'histoire médiévale, d'architecture, de romans historiques et plus largement par tous ceux qui s'intéressent à la manière dont une œuvre naît d'un dialogue entre matière, technique et vision. Le livre convient aussi à un lectorat sensible aux récits de travail, aux communautés artisanales et aux textes où la dimension spirituelle n'est jamais séparée des gestes concrets. Son intérêt tient à la précision de sa documentation, mais aussi à sa capacité à transformer un chantier en réflexion sur la création elle-même. Contrairement à beaucoup de romans historiques qui utilisent le décor médiéval comme simple cadre narratif, celui-ci fait de l'architecture son sujet principal et son principe d'écriture. Fernand Pouillon parle en architecte sans sacrifier la littérature, il donne à voir les contraintes du réel, la dureté des matériaux, la fatigue des hommes et la beauté qui peut naître de la rigueur. C'est cette alliance rare entre savoir technique, portée symbolique et force littéraire qui fait de ce livre une œuvre singulière dans son genre. Si vous souhaitez soutenir Fernand Pouillon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!